Bonjour à tous. D'abord, je voudrais vous présenter les salutations de l'Église de Marseille et des responsables, mais aussi de toute l'Église. Merci pour cette invitation également. Je voudrais vous poser d'abord une question. Qu'est-ce que vous faites quand on vous appelle? Si on vous appelle par votre prénom, quelle est votre première réaction? Bon, a priori, vous répondez, à moins que vous soyez un peu sauvage ou mal luné ce jour-là, et puis que vous partiez en courant, ou généralement on se retourne, on se dit « oui, qui m'a appelé ?» C'est un peu ce qui se passe aussi à l'école, quand la maîtresse fait l'appel, eh bien, les élèves généralement répondent à leur prénom pour savoir s'ils sont bien présents. C'est un peu ce qui se passe aussi quand le commandant militaire dans la caserne fait l'appel le matin, tous les... Les militaires se mettent au garde à vous et répondent à cet appel également. Et puis on connaît peut-être, ou vous-même avez peut-être eu une vocation particulière dans votre vie et vous avez répondu quelque part à cet appel dans ce que vous faites, dans ce que vous pratiquez aujourd'hui en répondant à une certaine vocation. Mais ce matin, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez répondu à l'appel de Dieu? Comment est-ce que vous avez répondu à l'appel de Dieu? Et je voudrais ensemble qu'on puisse voir un appel, un exemple d'un appel du prophète Jérémie dans la Bible. Alors avec Yvan, on s'est donné un petit signe en fait pour qu'il puisse passer les diapositives parce que j'ai pas de zapette. Donc du coup, on sera dépissé. Donc si vous voyez faire ça, c'est que je fais un petit signe à Yvan pour qu'il puisse passer la slide. Et je vous propose de lire ensemble, bien, tout simplement dans le premier chapitre du livre de Jérémie, cet appel de Dieu pour le prophète Jérémie, et je vais lire les versets 4 à 10. Jérémie, chapitre 1, les versets 4 à 10. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu: ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit: ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter: j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est l'appel de Dieu. Au verset 5, et on voit cet appel en trois actes. Le premier acte, c'est que Dieu dit à Jérémie: je t'ai connu. Selon certaines versions, je te connaissais. Je t'ai connu. Dieu est souverain. Dieu est hors du temps. C'est quelque chose qui dépasse notre compréhension, qui est complètement incompréhensible. Avant même que nous naissions, que nous sortions du ventre de notre mère, Dieu nous connaissait personnellement. Je ne voudrais pas parler ici absolument pas de la doctrine de l'élection, mais Dieu nous connaissait avant même que nous naissions. C'est exactement ce que le psalmiste David dit quand dans le psaume 139, il dit: mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Il dit exactement la même chose pour Paul. Paul proclame la même chose quand il dit: mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Dieu te connaît avant même que tu sois sorti du ventre de ta mère. Premier acte. Le deuxième acte, c'est qu'il dit: je t'ai consacré. Dans le sens de: je t'ai mis à part. Dieu avait prévu pour le prophète Jérémie une vie hors du commun, une vie pas ordinaire, une vie même extraordinaire. Eh bien, c'est la même chose pour chacun d'entre nous, pour moi, pour toi. Dieu t'appelle, Dieu nous appelle à vivre sur cette terre une vie extraordinaire, qui sorte du commun, de tout ce qu'on peut voir chez chacun de nos concitoyens. Parce que Dieu nous appelle à vivre une vie par Christ et pour Christ. Une vie qui soit centrée sur Christ. Une vie qui sort de l'ordinaire, de tout ce que nous pouvons voir autour de nous. Des gens qui sont centrés sur leur intérêt, sur leur vie aujourd'hui, sur le travail, sur leurs loisirs, sur tout ce qui pourrait faire leur centre d'intérêt. Et il nous appelle à décentrer notre centre d'intérêt pour le centrer sur lui et sur lui seul, pour vivre une vie extraordinaire. Le troisième volet de cet appel de Dieu à Jérémie, c'est « Je t'ai établi ». Selon les versions « Je t'ai désigné ». Avant même d'être né, Dieu a établi le prophète Jérémie dans sa fonction de prophète. Il savait à l'avance ce qu'il allait faire avec Jérémie, ce à quoi il allait appeler Jérémie. Quelle est aujourd'hui ta fonction? Qu'est-ce que Dieu fait de toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton service pour le Seigneur? Comment est-ce que Dieu aujourd'hui t'équipe? Dieu nous appelle d'une manière toute personnelle. Il a appelé Jérémie avec ses trois actes, avec ses trois notions. Je t'ai connu, je t'ai consacré, je t'ai établi. Parce que Dieu nous connaît à fond, Dieu nous connaît complètement, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et la réalité, c'est que dans sa souveraineté, Dieu appelle ses serviteurs en temps voulu pour l'œuvre qu'il a préparée d'avance pour chacun d'entre eux, pour chacun d'entre nous. La première étape dans l'appel, c'est donc d'écouter. Cette première étape, c'est Dieu a parlé à Jérémie et Jérémie a écouté. Mais alors, on peut se poser cette question et c'est le deuxième point. Quelle réponse à cet appel? Et si on voit au verset 6, on regarde le verset 6, on voit tout de suite cette réticence de Jérémie qui répond à Dieu. Mais je suis trop jeune, Seigneur, mais je ne sais pas parler. Est-ce que ça ne vous rappelle pas un autre personnage biblique? Moïse, quand il était dans cette caverne, devant ce buisson ardent, Dieu qui était en train de l'appeler également pour être le conducteur de son peuple, pour le faire sortir d'Égypte. Et Moïse qui a répondu, « Ah Seigneur, mais je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date pas d'hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. » J'ai la bouche et la langue embarrassées. Quelles excuses est-ce que nous trouvons quand le Seigneur nous appelle? Je suis trop jeune. Je suis trop vieux. Je suis trop ceci, trop cela. Quelles excuses est-ce que nous opposons à Dieu face à l'appel qu'il peut nous lancer? En réponse à cela, à cette crainte de Jérémie, eh bien, Dieu envoie Jérémie. C'est le verset 7. Tu iras et tu diras. Les excuses ne tiennent pas devant Dieu. Dieu n'accepte pas ces excuses parce qu'il a un plan pour chacun d'entre nous qu'il connaît d'avance. Il sait exactement ce vers quoi il va nous amener. Il sait exactement comment il va nous amener. Et il sait exactement comment est-ce qu'il va utiliser nos faiblesses, qui sûrement nous font peur, pour être utiles à l'avancement de son royaume, à la croissance de son évangile sur cette terre. Dieu nous connaît parfaitement et toutes nos excuses ne peuvent pas tenir devant Dieu. Et à cet envoi, Dieu a sorti une promesse au verset 8. N'aie pas peur. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer. Nous n'avons aucune crainte à avoir des hommes. Et c'est bien souvent là le problème. Cette crainte que nous pouvons avoir des hommes. Et je pense que nous avons bien plus à craindre de Dieu que de craindre des hommes. Surtout quand Dieu est avec nous, surtout quand Dieu nous appelle. C'est exactement cette promesse également qu'il a faite à Josué, quand Josué se trouvait là devant la terre promise et il devait avec tout le peuple d'Israël conquérir cette terre promise. Qu'est-ce que Dieu lui dit ? N'aie pas peur. Qu'est-ce qu'il dit à Paul ? Quand Paul arrive dans cette grande ville de Corinthe, cette ville complètement corrompue, où il y a de nombreuses âmes en attente de se tourner vers l'Éternel, un champ de mission incroyable, et Dieu s'adresse à Paul en lui disant « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi. » Alors, Dieu réalise un signe au verset 9, un petit peu particulier, où il touche la bouche du prophète, comme signe qu'il va mettre ses paroles dans sa bouche. Peut-être que Dieu te montrera un signe, mais peut-être pas. Peut-être que l'appel qu'il va faire et qu'il te fait, peut-être aujourd'hui, suffit pour que tu sois à son écoute. Mais dans sa souveraineté, Dieu appelle ses serviteurs en temps voulu pour l'œuvre qu'il a préparée d'avance pour chacun d'eux. Et nous sommes là dans la deuxième étape de l'appel, qui est d'obéir. D'obéir à cet appel que Dieu fait. C'est ce que Jérémie a fait, même s'il a émis ses craintes. Alors, on peut se poser cette question. Et pour moi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est concrètement ? L'appel de Jérémie est un appel personnel. Il y a plus de 10 ans, une bonne dizaine d'années, j'ai reçu cet appel, où j'ai senti que Dieu me martelait. Lève-toi. Il est temps de te lever. Non pas que je restais tout le temps assis, mais même que je faisais beaucoup de choses dans l'église, mais de me lever d'une manière particulière pour le Seigneur, pour ce à quoi il m'appelait. J'étais réticent. J'ai trouvé toutes les excuses possibles. J'allais même consulter ma femme pour lui dire, mais ça va faire beaucoup, ça va beaucoup nous charger, comment est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que tu en penses ? Et j'ai fini par céder, j'ai fini par répondre à cet appel, de me lever pour un service particulier dans l'église auquel Dieu m'appelait, malgré mes réticences, malgré mes peurs. Si je me retourne aujourd'hui sur ces 10 dernières années, je peux que être reconnaissant et vraiment voir ce que Dieu a accompli. Bien sûr, je suis, comme chacun d'entre vous, un serviteur inutile. Dieu pourrait se passer de moi, il n'a pas besoin de moi. Et pour autant, il m'a appelé pour quelque chose de bien particulier. Et je crois qu'il veut faire ça avec chacun d'entre nous, avec chacun de ses serviteurs. Quel est ton appel ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Qu'est-ce qui résonne en toi, dans ton service pour le Seigneur ? Si on pouvait le dire autrement, qu'est-ce qui te fait des petits chatouilles dans le ventre à chaque fois que tu penses à quelque chose de particulier dans ton service pour le Seigneur, dans l'Église ? Vers quoi tu te sens appelé ? Peut-être qu'il y a un frère ou une sœur qui, depuis un certain temps, te rabâche quelque chose, te dit « Tiens, mais est-ce que tu ne devrais pas faire ça, être là ?» Et peut-être tu dis « On verra plus tard. » Ou « Non, ça, je crois que c'est pas pour moi. » Peut-être que dans ta lecture personnelle, quotidienne, peut-être que dans tes prières, dans ton temps avec le Seigneur, tu sens qu'il y a quelque chose qui vibre en toi. Comment est-ce que tu écoutes ça aujourd'hui ? Comment est-ce que tu réponds à ça ? Pour entendre l'appel que Dieu te fait, il y a une attitude qui est indispensable, c'est de te mettre à l'écoute. Tu ne peux pas entendre l'appel si tu n'es pas dans une attitude d'écoute. Et la première chose à faire peut-être, et je voudrais t'encourager à réfléchir, à prendre un temps peut-être particulier, pourquoi pas une journée, je ne sais pas, dans le jeûne et dans la prière, à te mettre à l'écoute de ce que Dieu veut te dire, de ce à quoi il t'appelle. Prendre du temps pour tout simplement lui dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu pour moi ? Que veux-tu dans ma vie ? Prendre du temps pour te mettre à l'écoute. Prendre une sorte de retraite, de te mettre en retrait de cette vie qui avance à grands pas avec un flux incessant d'informations que nous recevons en permanence. Te mettre en retrait, dans le silence, et te mettre à l'écoute du Seigneur. Qu'est-ce que Christ veut pour toi dans ta vie? Et peut-être pouvoir remplacer, quand Dieu dit à Jérémie, « Je t'ai établi pour être prophète des nations », eh bien, pouvoir répondre pour toi, « Je t'ai établi, trois petits points », pour quelque chose de spécifique qu'il a pour toi, un plan spécifique qu'il a pour chacun d'entre nous. Ce à quoi Jésus-Christ t'appelle pour vivre une vie intense avec lui, une vie forte, une vie sur cette terre extraordinaire. Puis un appel nécessite une réponse. Alors, quand tu seras peut-être convaincu de cet appel que Dieu a pour toi, bien peut-être que tu vas te poser cette question, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais réagir? Parce qu'il faut bien comprendre que le choix divin en vue de notre ministère ne supprime pas la nécessité de répondre à cet appel ou pas, et de laisser les choses continuer à s'écouler, à vivre cette vie sur cette terre, à dire « Oui Seigneur, je sens peut-être que tu m'appelles à faire ça, mais on verra bien plus tard. J'y réfléchirai un petit peu plus tard, c'est peut-être pas le moment. Regarde l'âge de mes enfants, regarde la situation dans laquelle je suis en plein changement professionnel. » Et on pourra présenter beaucoup d'excuses pour se dérober. « Seigneur, vraiment, je suis trop jeune, c'est pas possible, je n'ai pas de crédibilité. Seigneur, je suis trop âgé. Tu comprends que maintenant j'arrive au bout de ma vie et ça sert à rien. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi est-ce que tu m'utiliserais? Seigneur, je suis une femme, on ne pourra pas m'écouter. Seigneur, je suis un homme qui manque de conviction. Comment est-ce que je peux faire pour me lever pour toi? Et on trouvera tellement d'excuses. L'âge, le manque de capacité, qui peut-être parfois cache aussi la peur du « quand dira-t-on si je me lève ?» Qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Peut-être la peur de l'affrontement. Mais Dieu promet qu'il sera avec nous. Dieu promet qu'il sera avec toi. Et ce matin, je crois vraiment que dans cette réflexion, pour cet appel, il te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, je serai avec toi. Lève-toi, je serai avec toi. Parce que si je t'appelle, c'est pour un service pour moi. Est-ce que Dieu a déjà abandonné un de ses enfants? Est-ce que Dieu n'a déjà pas pris soin d'un de ses enfants? Deux étapes. Écouter l'appel et obéir à cet appel. Je voudrais maintenant m'adresser à tous ceux qui, peut-être dans cette salle ou ceux qui écoutent, n'ont pas encore dans leur vie accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur, et qui n'ont pas encore fait cette démarche. Et je voudrais vous parler de Marguerite. Marguerite, c'est une jeune femme qui est, c'est un nom bien sûr transformé du vrai prénom de cette dame, pour garder son anonymat. Cette Marguerite est arrivée un jour dans l'église. Marguerite a dû en fait rejoindre la France alors qu'elle n'était pas en France pour se faire soigner d'une maladie grave qui lui avait été diagnostiquée. Elle avait besoin de soins particuliers. Au cours de son cheminement avant d'arriver en France, elle a eu l'occasion de rencontrer une infirmière chrétienne qui lui a parlé de Jésus. Elle a été surprise, étonnée. Quelque temps plus tard, alors qu'elle allait subir une intervention, l'anesthésiste lui parle de Jésus, juste avant de l'endormir, et lui parle de Christ. Elle a commencé à réellement être interpellée, et un petit peu plus tard, une autre personne encore, et toutes ces personnes étaient complètement indépendantes les unes des autres, lui parle de Jésus. Alors, quand Marguerite arrive en France, elle est logée chez une amie, qui ne connaît pas non plus le Seigneur, et elle lui dit « Est-ce que tu sais où je peux trouver une église? J'ai besoin d'aller dans une église. » Il y a des réponses que je dois avoir. Alors, la copine de Marguerite lui dit, il y en a une au bout de l'église, au bout de la rue. Et c'est comme ça que nous voyons un jour Marguerite passer les portes de l'église interpellé par ce qui était en train de se passer dans sa vie, qui avait des questions auxquelles on a pu répondre, à qui on a pu présenter clairement le message de l'Évangile, à qui on a pu présenter clairement qu'au-delà de cette vie sur cette terre et de sa maladie qui pouvait l'emporter, il y avait quelque chose de bien plus important à investir pour sa vie, pour la vie éternelle, de placer sa confiance dans l'œuvre que Christ avait accomplie pour elle à la croix. Et Marguerite, dans son cœur, Dieu tapait depuis un petit moment, était en train de l'appeler, et Marguerite a répondu aussi à cet appel. Et elle a investi dans quelque chose de bien plus important que les traitements qu'elle pouvait prendre pour sa vie sur cette terre, dans la vie éternelle. Et si tu n'as pas fait cette démarche, et si tu sens que Dieu est en train de taper à la porte de ton cœur depuis peut-être un petit moment, alors je t'invite à ouvrir la porte de ton cœur, à ne pas attendre pour répondre à cet appel de Dieu, pour investir pour quelque chose de bien plus grand, bien plus éternel, bien plus merveilleux que juste ta vie sur cette terre, à répondre à l'appel de Dieu et à placer ta confiance en lui. Enfin, maintenant, je voudrais m'adresser à toute l'église de Pau, à toute cette église, pour un troisième niveau d'application. Donc aux responsables, mais aussi à chacune des personnes qui fréquentent cette église. Et peut-être que Dieu, en ce moment, est en train de vous parler d'une manière particulière. Peut-être que Dieu, en ce moment, est en train de vous dire quelque chose de particulier. Alors je vais d'abord m'adresser aux responsables de cette église, que j'ai eu l'occasion de rencontrer hier. Et je voudrais vraiment vous inviter à vous mettre à l'écoute de Dieu. À vous mettre à l'écoute de ce que Dieu a à vous dire pour cette église de Pau. À capter peut-être cette vision que Dieu a pour cette église. Et pour toute l'église, je voudrais vous inviter à vous mettre à genoux, à l'écoute de ce que Dieu veut et a à vous dire pour toute l'église. Et en deuxième temps, à obéir à ce à quoi Dieu vous appelle en tant qu'église. En tant qu'église, vous êtes ici dans cette ville comme sel et lumière. Vous êtes appelés à rayonner pour proclamer la bonne nouvelle de l'évangile et à faire progresser cet évangile dans cette belle ville de Pau. Mais vous devez vous mettre à l'écoute de Dieu et répondre à cet appel, obéir à cet appel. Je pourrais juste partager qu'il y a quelques années, à l'église de Marseille dans laquelle je suis, nous avons eu l'occasion de vivre ça, de nous mettre à l'écoute de Dieu, de capter la vision que Dieu avait pour son église locale, à obéir à cette vision et en tant qu'église, à avancer dans cette direction, dans la direction que Dieu était en train de nous montrer. Et je peux juste témoigner aujourd'hui, et les choses continuent, mais que quand on se retourne et qu'on voit toutes les bénédictions que Dieu donne pour son église, quand l'église est à genoux, dans la prière et dans une pleine dépendance de Dieu, est à l'écoute de Dieu, les bénédictions sont incroyables. Non pas les bénédictions matérielles, et là je veux juste être reconnaissant avec vous de cette salle merveilleuse que vous avez, qui est géniale, on en rêverait à Marseille, ça fait des années qu'on cherche un bâtiment comme celui-là, mais de quelque chose de bien plus grand que le bâtiment fait de pierre, de ce bâtiment fait de pierre vivante que chacun représente et qui constitue toute l'église. Et d'une église qui grandit, qui continue de se développer par la grâce de Dieu. Ça nécessite aussi que toute l'église soit dans la prière pour ses responsables et puisse intercéder pour dire « Seigneur, bénis nos responsables, montre-leur la direction que tu veux pour ton église. » Et qu'en tant qu'église, toute l'église puisse se soumettre à ce que Dieu est en train de vous montrer et de la direction dans laquelle vers laquelle il est en train de vous appeler, à vous diriger. Je voudrais conclure. Tu peux faire le choix de continuer à vivre ta vie, même ta vie de chrétien, à venir tous les dimanches ici, t'asseoir sur cette chaise, écouter le message qui est donné, entendre ces chants de louange, et puis demain retourner au travail, sans te poser de questions. Ou bien tu peux répondre et écouter cet appel que Dieu veut pour toi. Tu peux continuer à vivre ce train-train de, alors on dit classiquement métro, boulot, dodo, ici je dirais plutôt auto, boulot, dodo, Je ne crois pas qu'il y ait le métro à Pau, il ne me semble pas. Ou bien chercher. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Ce à quoi il t'appelle, de manière précise, dans son service pour lui. Tu peux continuer à consacrer tout ton temps pour ton travail, à consacrer tout ton temps à passer du temps sur les écrans, à consacrer tout ton temps à faire du sport. Ça ne veut pas dire que ces choses-là ne sont pas bonnes, mais elles doivent être remises à leur juste place. Ou bien, tu peux décider de consacrer toute ta vie, toute ton âme, tout ton cœur pour Jésus-Christ, en écoutant et en répondant à l'appel qu'il a pour toi, pour vivre une vie passionnante sur cette terre, celle qu'il a en réserve pour toi. Cette vie extraordinaire, parce qu'elle va sortir du commun de tous nos concitoyens, parce que, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à répondre à cet appel que Christ fait pour chacun d'entre nous, dans nos vies. Comment est-ce que nous allons vivre ces années qui nous restent encore à vivre sur cette terre? Comment est-ce que je vais répondre à cet appel? Seigneur, que veux-tu que je fasse? À quoi est-ce que tu m'appelles? Je suis à genoux devant toi et je veux répondre à cet appel. Je voudrais prier. Seigneur, tu connais chacun d'entre nous. Tu connais chacun d'entre nous mieux que nous ne connaissons nous-mêmes. Tu sais ce qu'il y a au fond de notre cœur. Tu sais les montagnes qui sont devant nous et qui pourraient nous faire croire que nous sommes empêchés de nous lever pour toi. Tu connais parfaitement nos vies, nos combats, nos difficultés, ce qui pourrait nous ralentir dans notre cheminement, dans notre vie avec toi, et ce qui pourrait nous empêcher de nous lever pour toi. Seigneur, que tu puisses balayer ces montagnes. Toi qui nous dis que par la foi tu renverses ces montagnes, nous voulons croire que tu peux faire cela dans chacune de nos vies. Ô Dieu, je te prie vraiment que tu bénisses cette église de Pau. Que tu bénisses chacune des personnes qui fréquentent cette église, mais aussi que tu bénisses cette église en tant qu'église. Que tu bénisses les responsables de cette église. Que tu donnes à cette église, Seigneur, d'avancer toujours plus dans la direction vers laquelle tu l'appelles. Que tu sois loué, béni, adoré, Seigneur, parce que tu es le Seigneur de nos vies. Que tu sois vraiment replacé à la juste place à laquelle tu dois être dans nos vies, d'être au centre de chacune de nos vies, ô Dieu, d'être au centre de ton Église pour ta gloire. Amen.